Le dernier message, et moi j'étais content ce matin parce que je sais que je suis pardonné. Elle a pardonné à Pierre. Ouh, je vais pouvoir partir à la maison libre, léger. Est-ce que vous est déjà arrivé à vous, disons, si vous vous trouvez dans un métro, on va dire le métro à Paris, et vous n'êtes pas de Paris, ou lorsque vous êtes dans une ville perdue, égarée, vous ne connaissez pas les rues, est-ce que vous êtes arrivé de demander une direction à quelqu'un déjà? Je sais qu'il y a plusieurs styles, hein. Il y a des gens qui ne vont jamais demander des directions, et il y en a d'autres, ils aiment bien aller au contact des gens pour demander hein, où est-ce que ça se trouve cette rue. Arrivez par exemple, vous arrivez à Paris, vous ne connaissez pas Paris, demandez la station Châtelet. D'accord? Ou vous allez à Saint-Denis, et où est-ce qu'on se rend au Stade de France? Alors, la plupart des gens à qui vous allez demander des directions en temps normal et même à Paris, ouais, je pense que les gens vont être gentils, la plupart du temps. Ça dépend qui, peut-être. Mais ils pourraient vous dire, par exemple, c'est par ici ou c'est par là, tu prends le prochain virage ou tu fais une connexion à cette station-là et puis tu seras arrivé. Voilà. Mais, cas de figure, hypothèse. Qu'est-ce qui se passerait si vous demandiez à la même personne si gentille pour vous donner des directions, si vous lui demandiez « Est-ce que je pourrais aller manger chez toi ce midi ?» Ou alors, encore mieux, « Est-ce que mes amis et moi, on pourrait aller dormir chez vous ce soir ?» Ça serait peut-être un peu différent comme réponse. Alors, où est le problème ? En fait, vous ne vous connaissez pas. La personne que vous avez rencontrée, vous ne la connaissez pas, elle ne vous connaît pas. Il n'y a pas de relation. Voyez-vous ? Et ça, c'est compliqué quand on veut avoir une relation sans rien au départ. Ce matin, j'aimerais qu'on termine notre série de 4 messages sur la prière en discutant de son aspect relationnel. On l'a vu dans le clip précédent. L'aspect relationnel. Et on va prendre l'une des prières les plus connues de toute la Bible, le Notre Père. Le Notre Père, c'est une prière que même des non-chrétiens connaissent. Et même parfois, c'est la seule prière qu'ils connaissent. Ils n'en connaissent pas d'autres. Le Notre Père. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais prise mot à mot, cette prière-là peut être dite en 20 secondes. Top chrono, lisez et c'est très rapide. 20 secondes. Et pourtant, si on voulait rassembler tous les commentaires qui ont été écrits dans toutes les langues sur le Notre Père, je crois qu'on aurait plusieurs bibliothèques remplies de commentaires sur cette prière-là. Notre Père. Une prière relationnelle, une prière qui se trouve dans 2 versions différentes dans le Nouveau Testament. Il y a la version plus longue dans Matthieu chapitre 6 et la version plus courte dans Luc chapitre 11. Tout ça pour dire que si le Notre Père avait été dit, donné pour être dit mot à mot, il n'y aurait pas 2 versions différentes déjà dans le Nouveau Testament. Alors, on comprend que ce n'est pas une prière qui est donnée pour être répétée mot à mot. Dans Matthieu, le Notre Père fait partie d'un grand ensemble, c'est le sermon sur la montagne, le grand discours où Jésus explique les nouvelles valeurs du royaume de Dieu. Jésus dit, ben voilà, vous êtes entrés compatriotes du royaume de Dieu, maintenant voilà comment on vit dans le royaume de Dieu. Et là, il donne le Notre Père. Dans Luc, c'est suite à une question des disciples que Luc introduit le Notre Père. Les disciples qui demandent à Jésus « Voudrais-tu nous enseigner à prier, s'il te plaît, Seigneur ?» comme les disciples de Jean-Baptiste ont fait. Et là, Jésus donne le Notre Père. En fait, comment expliquer ces 2 versions ? C'est qu'il est très possible, fort possible, que le Seigneur ait enseigné son modèle de prière plus d'une fois. Il n'a pas donné une seule fois, mais en plusieurs occasions. C'est certainement ce qui s'est passé. Mais ce matin, on va lire la version dans Matthieu 6, donc je vais la lire. Matthieu chapitre 6, versets 1 à 13. Gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public, pour que tout le monde vous remarque. Sinon, vous ne recevrez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu donnes quelque chose à un pauvre, n'attire pas bruyamment l'attention sur toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Ils agissent ainsi pour être loués par les hommes. Je vous déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais quand ta main droite donne quelque chose à un pauvre, ta main gauche elle-même ne doit pas le savoir. Verset 4. Ainsi, il faut que ce don reste secret et Dieu ton Père qui est dans les cieux et qui sait ce que tu fais en secret te récompensera. Verset 5. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Mais moi, je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Et verset 7, quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens, qui s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas, car Dieu, votre Père, sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu Saint. Que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. De notre Père, on le connaît par cœur, certains auraient pu même le réciter de mémoire. Dans Matthieu 6, Jésus commence son discours sur la prière en disant quelque chose de très important à ses disciples. Il dit ces trois mots, « quand vous priez ». Et il le répète plusieurs fois, « quand vous priez ». Une toute petite phrase, « quand vous priez ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Jésus s'attendait à ce que ceux qui croient en lui prient. Ça peut peut-être aller de soi de dire ça, mais il faut le dire quand même. Jésus s'attendait à ce que ceux qui font partie du royaume de Dieu prient comme une personne qui est centrée sur Dieu est censée le faire. Tout naturellement, Jésus leur dit « quand vous priez ». Pas si, si l'occasion se présente, pas à un moment donné où on verra bien. Non, Jésus dit « quand vous priez ». Les disciples de Jésus, qui font partie du royaume de Dieu, vont prier et la prière va faire partie de leur piété normale. « Quand vous priez ». Ensuite, avant même de donner à ses disciples un modèle de prière, Jésus veut d'abord corriger une certaine conception de la prière qui est assez courante chez les Juifs de son époque, les pharisiens notamment, mais aussi chez ceux que les Juifs appelaient les païens. Donc Jésus, avant de nous donner le modèle de prière, va corriger une certaine conception de la prière qui n'est pas juste. Prenons d'abord la façon de prier des pharisiens. Cette façon que Jésus veut corriger. Les pharisiens. Alors nous, on a une certaine image de ça, des pharisiens. Mais ces gens, c'était des personnes qui prenaient la religion au sérieux. Ils étaient stricts, ils étaient rigoureux, ils voulaient plaire à Dieu. Mais Jésus dit qu'ils prient comme des hypocrites. Ça démarre pas très bien, ça. Jésus dit qu'il prie comme des hypocrites. En français, dire que quelqu'un est hypocrite, en anglais c'est pareil, c'est assez péjoratif. Ça a une connotation plutôt négative. Par exemple, si quelqu'un me disait ce matin que je suis un hypocrite, je prendrais pas ça pour un compliment. je me remettrai en question. Je réfléchirai. Hypocrite. C'est pas très positif tout ça. Mais un hypocrite dans le monde gréco-romain, c'était un comédien. C'est quelqu'un qui faisait du théâtre. Alors, nous les chrétiens évangéliques, on n'est pas contre ceux qui font du théâtre. On a eu une petite pièce ici ce matin. On n'est pas contre ça. Il n'y a rien de mal à jouer la comédie quand tout le monde sait que le rôle qu'on joue, ce n'est pas la réalité. Hein? On sait bien par exemple que l'acteur qui joue le rôle de Spider-Man, il se met pas sur le toit des immeubles de son quartier et il passe pas d'un bâtiment à l'autre en prenant une toile pour le coller au mur des immeubles. On sait bien que c'est pas ça. C'est pas la réalité, ça. Ce que Jésus reproche à ceux qui se servent de la prière pour se mettre en scène, c'est qu'ils font comme s'il n'y avait pas de différence entre le rôle qu'ils jouent et la réalité. C'est ça que Jésus reproche. Les gens qui prient debout dans la synagogue, ils donnent à croire qu'ils sont comme ça dans la vraie vie. Et c'est ça l'hypocrisie, parce qu'ils ne le sont pas. Au début de Matthieu 6, Jésus veut qu'on réfléchisse en fait, en soulevant l'idée d'hypocrisie, il veut qu'on réfléchisse à cette question importante, pourquoi pries-tu ? Jésus nous ramène à nos motivations quand on prie. Pourquoi est-ce que tu pries ? Et Jésus nous fait comprendre qu'il existe de bonnes raisons de prier et de mauvaises raisons de prier. Les pharisiens, eux, leur vraie motivation, est-ce que c'était vraiment d'entrer en relation avec Dieu ? Leur vraie motivation, c'était pas vraiment de s'approcher de Dieu, d'avoir une communion avec lui. Les pharisiens voulaient redorer leur blason. Ils voulaient qu'on les trouve pieux. Mais c'est pas ça le vrai sens de la prière. Et Jésus dit, attention, il met en garde ses disciples. On ne prie pas pour se mettre au centre, pour être vu, pour être remarqué. Et Jésus dit, si certaines personnes de son temps priaient pour être applaudies, si c'était là tout ce qu'elles recherchaient, eh bien Jésus leur dit, effectivement, il y aura peut-être certaines personnes qui vont vous applaudir, c'est vrai. Mais vous n'obtiendrez rien de plus de votre prière et c'est bien dommage. Parce que la prière a bien plus à offrir que des applaudissements humains. Beaucoup plus. Attention. La première tentation que Jésus corrige, c'est de se mettre au centre de ses propres prières. En fait, Jésus veut entraîner ses disciples dans une sorte de révolution copernicienne. Vous connaissez ? Révolution copernicienne par rapport à la prière. Vous savez, avant Copernic, tout le monde, tout au long du Moyen-Âge, tout le monde pensait que la Terre était au centre de l'univers. Mais quand Copernic a démontré que c'était faux, beaucoup de personnes ont été choquées. Il y en a qui ont même refusé d'accepter cette réalité-là. Mais le fait est que la Terre n'est pas au centre de l'univers. On est d'accord. Mais Jésus dit à ses disciples, vous n'êtes pas au centre de vos prières. Vous n'êtes pas au centre de vos prières. La prière ne doit pas servir à se mettre devant, à nous faire briller et devenir la star de notre propre spectacle. Dieu est au centre de la prière. C'est la première chose que Jésus veut enseigner à ses disciples. En corrigeant une erreur qui est très répandue. Mais il y a une deuxième tentation à éviter par rapport à la prière, et Jésus la relève ici, c'est d'être devant Dieu comme un païen. Être devant Dieu comme un païen, qu'est-ce que ça veut dire ? Si on pense aujourd'hui à ce que ça pourrait être un païen, je ne sais pas vous, mais... Moi, je pense qu'il nous vient à l'esprit une personne pas du tout religieuse. On dit un païen, c'est un païen. pas religieux, une personne profane. C'est peut-être la conception qu'on a, nous, d'une personne païenne. Mais ici, c'est très intéressant. Jésus parle de païens qui prient tout le temps. Avez-vous remarqué ? Les païens dont Jésus fait mention, ils prient tout le temps. Ce n'est pas des irreligieux, ce n'est pas des profanes. Ils prient. Mais comment est-ce qu'ils prient ? Ces gens-là prient peut-être plus que vous et moi. Mais ils prient en païen. Qu'est-ce qui distingue des chrétiens de ces gens-là, alors ? Eux, ils prient, nous, on prie. Qu'est-ce qui nous différencie ? La différence, ce n'est pas d'être religieux ou pas religieux. Ce n'est pas de cet ordre-là. La différence se situe dans la conception que les païens et les disciples de Jésus ont de l'approche de Dieu. Se poser la question, comment on s'approche de Dieu ? C'est là la différence entre un païen et un chrétien. Comment on s'approche de Dieu ? La version païenne de la prière, c'est d'être devant Dieu comme quelqu'un qui passe un entretien d'embauche. Vous êtes arrivé ? Hein ? On est nerveux, c'est stressant. Alors il faut se vendre. Il faut se vendre, il faut impressionner, il faut bien parler. Notre performance va être évaluée. C'est important. Et si on en fait assez, on va être accepté. Un entretien d'embauche. Jésus nous dit que quand on s'approche de Dieu, on n'est pas dans une logique de performance. Le but, ce n'est pas d'essayer d'impressionner Dieu. On ne prie pas pour essayer d'impressionner Dieu, ni d'essayer de le manipuler pour obtenir ce qu'on veut. Si je dis telle formule, si je dis bien, si j'emploie des mots assez éloquents, non. Ni impressionner, ni manipuler. Quand on prie comme un païen, on court le danger de devenir comme une machine à prier. On répète des paroles. Et dans cette manière de s'approcher de Dieu, il n'y a pas de vraie relation. Il n'y a pas de vraie intimité avec Dieu. Et ce n'est même pas nécessaire à la limite. Pourquoi ? Parce que peu importe qu'on entre dans une relation intime avec Dieu ou pas, quand on prie comme un païen, ce qui compte, ce n'est pas la communion. Ce qui compte, c'est de trouver la bonne formule qui marche pour obtenir ce qu'on veut. Si ça marche, c'est bon. Avez-vous déjà pensé à la prière de cette manière-là ? Connaissez-vous peut-être des gens qui voient la prière comme ça ? Si ça marche, c'est bon. Parce que l'objectif, au fond, ce n'est pas de rencontrer une personne, c'est d'avoir ce que je veux. L'esprit païen dans la prière, à quoi ça ressemble ? Répétition de formules toutes faites ? Il y a l'idée de performance ? Il y a l'idée de performance récompensée. Et ça ressemble un peu à cette personne qui dirait à Dieu, « Seigneur, viens dans ma vie, je veux être ton locataire, sois mon propriétaire. » Une relation propriétaire-locataire. « Je vais faire ma part, tu feras la tienne. » « Seigneur, sois mon partenaire commercial. » Je vais respecter ma part du contrat, tu respecteras la tienne. Donnant, donnant. Jésus invite ses disciples à prier dans un esprit complètement différent. Ni relation propriétaire-locataire, ni relation partenaire commercial avec un autre. Le chrétien dit à Dieu d'abord « notre Père ». Un papa avec son fils. Dieu, viens dans ma vie. Sois mon père. Je sais que je ne suis pas digne de cela. Je ne mérite pas de t'appeler papa. Mais par Jésus, parce que je suis adopté en lui et par lui, sois mon papa. Voilà toute la différence entre une prière païenne et une prière chrétienne. Notre Père. Toute vraie relation avec Dieu commence par là, l'adoption. Être chrétien, c'est d'abord et avant tout être adopté dans la famille de Dieu. Au départ, Dieu n'était pas notre Père. On ne faisait pas partie de la famille de Dieu. Notre avenir était sombre, bloqué, aucun espoir. Mais par la foi en Jésus, tout a changé. On a été adopté. Vous vous rendez compte ? On a été adopté. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais dans le processus d'adoption, qui prend l'initiative ? L'initiative ne vient pas de l'enfant. C'est le papa qui pense à un enfant et il dit « je vais l'adopter ». On a été adopté. L'évangile de Jean nous dit que à tous ceux qui ont reçu Jésus, Dieu a donné le droit d'être appelé enfant de Dieu. C'est un droit, c'est légal. L'adoption a un aspect d'abord légal. À partir du moment où un enfant est adopté légalement, son statut change. Il a les mêmes droits que tous les enfants naturels de la famille. Et l'enfant naturel de la famille, par rapport à Dieu, c'est qui ? C'est Jésus. Tu as les mêmes droits légaux et tu as le même statut devant Dieu que Jésus. C'est extraordinaire. Jésus a prié dans Jean 17, « Père, aime ces enfants que tu me donnes comme tu m'aimes moi. » Je répète cette prière. « Père, aime ces enfants-là comme tu m'aimes moi. » Jésus a demandé à Dieu d'aimer mes frères, mes sœurs, l'Église de Saint-Maur, comme lui, Dieu l'aime. Vous vous rendez compte de ça ? Est-ce qu'on peut imaginer ce que ça veut dire que Dieu m'aime comme il aime Jésus ? Est-ce qu'on a idée de l'amour qu'il y a entre Jésus et Dieu ? Avez-vous déjà pensé à ça ? À quel point est-ce que Dieu aime Jésus et Jésus aime Dieu ? Eh bien, c'est cet amour-là que Dieu te porte comme son enfant. Et là, on peut réfléchir longtemps, longtemps, longtemps. Et il y a une matière très, très profonde là. Ceux qui sont unis à Jésus vont pouvoir parler à Dieu comme Jésus lui parle. Ceux qui sont unis à Jésus, adoptés dans sa famille, vont pouvoir apprendre à jouir de sa présence, à l'adorer, à aimer passer du temps avec lui, à tout lui dire, à lui faire confiance, à s'attendre à lui, à recevoir ses instructions, comme Jésus l'a fait. Comme Jésus l'a fait. Le même statut que Jésus devant Dieu. Notre Père. Le Père qui est au ciel va faire descendre sur la terre, dans le cœur de ceux qui vont le prier, toute l'affection que Dieu porte à Jésus. Toute l'affection que Dieu porte à Jésus, quand tu pries, c'est cette affection-là qu'il y a entre Dieu et toi. Vous vous rendez compte de ça ? C'est extraordinaire. Laissons cette doctrine de l'adoption, cette réalité de l'adoption, saturer notre cœur, notre pensée. Laissons l'idée que vous êtes, toi et moi, son enfant, nous transformer, révolutionner notre vie de prière. C'est là l'enjeu. C'est là la motivation. Autrement, on prie comme des païens. Dieu nous chérit comme il chérit Jésus. Il nous a choisis. Il nous a pris à charge. Il prend soin de nous. On est aimé inconditionnellement. Grâce à Jésus. Notre Père. Dieu est notre Père. Où en sommes-nous ce matin dans notre vie de prière ? Arrêtons-nous un instant et posons-nous la question. Comment est-ce que je m'approche de Dieu ce matin ? Comme un partenaire commercial ? donnant-donnant, comme quelqu'un qui veut juste obtenir ce qu'il veut, ou comme un fils dans la maison de son père. Je propose qu'on termine, mais je veux vous donner l'occasion de répondre à ce qu'on vient de dire là. Librement, quelques personnes, selon ce que Dieu vous met à cœur, on va s'approcher de lui et on va se présenter devant notre Père. Comment répondre à une vérité comme celle-là? Comment répondre à cette réalité qu'on est adopté dans la maison du Père? Prenons un petit moment, juste là maintenant, pour élever la voix vers Dieu et pour lui dire ce que ça nous fait à nous d'être aimés de Dieu comme Dieu aime Jésus. Prions. C'est vrai, Seigneur, ce matin, nous voulons laisser cette vérité profonde envahir toute notre personne. L'amour qu'il y a dans ton cœur de Père envers Jésus, c'est cet amour que tu déverses dans notre cœur ce matin. Et tu nous appelles tes enfants. Et nous, par le Saint-Esprit, nous crions « Papa ». Seigneur, nous n'avons pas beaucoup de paroles, comme un enfant qui sait à peine parler à son père, mais qu'un enfant dise à son père « Papa ». Il a tout dit. Seigneur, tu nous aimes et nous voulons vraiment te remercier parce que notre relation avec toi, c'est pas une relation de propriétaire, locataire ou de partenaire commercial, c'est une relation intime et profonde d'un papa avec son fils. Et merci pour ça, Seigneur. Librement, si vous voulez vous exprimer.
Père, nous voulons te dire merci, parce que vraiment, avant de poser les fondations du monde, tu nous as déjà choisis. Tu nous as, dans ton amour, dans ta bonté, tu nous as prédestinés à être tes enfants, ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Mais c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as attirés à toi, de vouloir le faire, c'est toi qui as donné tout, tu as tout préparé et ton Fils l'a accompli. Et même à son départ auprès de toi, tu nous donnes l'art de l'esprit pour vraiment marquer de ton sceau que nous t'appartenons, Seigneur, tout cela. Nous ne pouvons que te dire merci, te présentons notre reconnaissance, Père. Et vraiment merci, nous ne méritons rien du tout, nous sommes des pécheurs, des condamnés à être séparés éternellement de toi, mais ton amour infini, dans ta grâce infinie, tu nous attires à toi, tu nous appelles à toi, tu nous as déclaré juste, tu l'as sanctifié et tout, Seigneur, que dire encore, Seigneur. Nous ne voulons pas t'exprimer notre reconnaissance par les paroles, mais Seigneur, tu vois le cœur de chacun de nous, Seigneur. Donne-nous vraiment cette cœur de reconnaissance, d'obéissance, de soumission, de laisser confier par ton esprit dans la vie de chaque jour, Seigneur. Merci pour ce week-end. Nous avons appris encore un peu plus de toi, de ton amour, de ton comment prier. Et que vraiment, Seigneur, que nous partons d'ici en gardant toujours son enseignement dans notre cœur. Tous les modèles de prière de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et d'autres encore, Seigneur, soient un exemple pour nous, Seigneur. Puissons continuer cette vie de prière chaque jour, quand nous quittons ce lieu, et que nous puissions aussi encourager les autres frères et sœurs qui n'ont pas été week-end par notre témoignage, par notre partage, les encourager, de leur donner envie de prier. Une église ne prie pas, c'est une église qui est morte, Seigneur, tu l'as dit, et voilà, Seigneur, donne à chacun de nous ici présents, retournons dans notre propre église, que nous leur partageons ce message que nous avons appris, et que vraiment, nous puissions vraiment donner vraiment ce cœur de prière à chaque enfant, tes enfants à toi, comme si nous parlons à toi. En tant que mère, moi, j'aime bien parler avec mes enfants. Donc, j'aime bien que nous, on parlons, donc, vraiment. Donne-nous vraiment toujours ce cœur attaché à toi. Apprends le modèle sur ton fils. Il, malgré son ministère qui est très chargé, il prend toujours un temps à part, dans la matinée ou dans la soirée, pour rester auprès de toi. Lui qui est déjà le Dieu incarné, il a besoin d'être en intimité avec toi. Comme dans le devant présent, nous, nous sommes que des enfants qui sont pas, qui sont nés de nouveau seulement. Alors, ils ont encore besoin de plus de toi. Merci encore, Seigneur.
Merci.
Tous les bienfaits que tu nous accordes à chacun de nous ici présents. Merci, Seigneur.
Amen.